Toujours à CIBL reçoit pour un Québec apprenant. La deuxième demi-heure de l'émission commence avec cette entrevue que nous accorde généreusement M. Pierre Doré, qui est le nouveau président de l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes, aussi connu sous son acronyme ICEA. Bonjour M. Doré.
Bonjour.
Bienvenue à l'émission. Merci d'avoir accepté de vous détacher de l'UQAM pour venir nous voir.
Dans, ça me fait vraiment plaisir.
Dans un autre de vos rôles. J'aimerais, parce que bon, on pourra faire un peu le tour des objectifs et des défis, mais déjà, ce serait intéressant de vous présenter un peu avec votre parcours, parce que ce n'est pas un hasard qui fait que vous acceptez d'avoir cette présidence de l'ICEA. Ça s'inscrit très naturellement dans ce que vous avez fait dans votre cheminement professionnel.
Oui, beaucoup. Moi, j'ai commencé en éducation des adultes lors de mon premier emploi. Ça fait déjà plusieurs années, et j'ai un peu eu la piqûre, finalement, pour ce thème de travail, et j'étais coordonnateur ou responsable de programme à l'Université de Montréal, à la FEP à l'époque. Par la suite, je suis devenu chercheur sur des dossiers en éducation des adultes, sur la formation en entreprise, sur l'analyse de la participation, et je n'ai jamais arrêté pendant les années 80, 90 et 2000, de réaliser des travaux sur ces questions-là et sur la participation des adultes à la formation et à l'éducation. Et dans ce sens, à plusieurs reprises, j'ai participé à des activités de l'ICEA. J'étais membre individuel de l'ICEA. J'ai travaillé avec le personnel de l'ICEA à de nombreuses reprises, et donc oui, il y avait un côté un peu naturel, si l'expression est bonne, que j'accepte, au moins que j'accepte, oui, quand l'invitation m'a été faite.
Oui, puisque vous étiez, c'est ça, comme vous mentionniez d'ailleurs, c'est ça, déjà au sein de... Oui. Et conscient donc de la portée.
Et oui, je pense que je connaissais bien l'organisme. C'est un organisme qui existe depuis très longtemps. C'est un organisme qui a toujours été au premier front pour défendre le droit des adultes à l'accès à l'éducation, mais aussi le droit des adultes à avoir une éducation, une formation, peu importe le genre ou le format des pratiques éducatives, d'avoir une éducation de qualité aussi. Et dans ce sens-là, c'est vraiment être porteur d'une certaine forme d'histoire et être porteur d'un grand projet social, socio-éducatif, que d'être président de cette institution.
Et bien sûr, dans un contexte où il y a le mot « austérité » qui est prononcé de façon assez insistante par le gouvernement, je ne veux pas en faire un enjeu politique, mais c'est ce qui se passe en ce moment. Ce choix d'accepter la présidence, ça vous amène forcément à avoir à sonner l'alarme sur des dossiers où vous savez qu'il va y avoir des reculs et voir comment réétablir ses priorités.
À ce niveau-là, c'est, je pense, une priorité de l'ensemble de l'Institut. Là, il faut bien comprendre que l'Institut, c'est des membres du milieu communautaire, c'est des membres des institutions scolaires, du secondaire jusqu'à l'université. C'est des gens qui travaillent en milieu de travail, des gens qui travaillent en formation syndicale. On voit bien que ça regroupe des formateurs et des institutions de formation très diversifiées, et effectivement le climat actuel et les options actuelles sont très inquiétantes d'une certaine d'une manière pour l'exercice du droit et du droit à l'éducation pour les adultes. Il va falloir qu'au cours des prochains mois, on soit très vigilant et qu'on puisse intervenir pour défendre les apprenants adultes et, si possible, parce que c'est un avantage pour une société, et si possible, malgré tout, faire des petits, même des petits pas ou des petites avancées pour favoriser en quelque sorte un droit élargi à l'éducation des adultes.
En effet, et rappelons-le, si c'est nécessaire encore de le mentionner, que le gouvernement va nous entendre, l'éducation, c'est un investissement, ça n'est pas une dépense. Dans un contexte où on sent de plus en plus que la gouvernance de l'État est remplacée par une gestion de l'État, c'est sûr que c'est facile de calculer les coûts de l'éducation et d'oublier que, c'est ça, je le rappelle, d'abord un investissement.
Oui, et si on parle d'investissement, il faut parler peut-être d'un investissement économique, bien entendu. Il faut pas se cacher la figure. La grande partie de l'éducation des adultes formelle et non formelle aujourd'hui est largement associée au monde du travail, ouais, au milieu de travail, aux emplois. Et justement, l'important, d'une certaine manière, c'est de s'assurer qu'on puisse aussi à faire une place importante à toutes les formes éducatives qui sont plus loin du marché du travail et de l'emploi. Que ce soit les retraités, que ce soit l'apprentissage des nouvelles technologies, oui, que ce soit pour intervenir dans des débats publics. Et on sait que les débats publics sont très importants. Mm-hmm. Il suffit juste de voir ce qui se passe au niveau environnemental pour réaliser comment certains choix sont des choix cruciaux et qu'en quelque part, il faut que ça soit l'ensemble de la population qui soit mobilisée autour de ces thèmes. Fait que dans ce sens-là, l'éducation des adultes a une place stratégique pour s'assurer qu'on comprenne bien les enjeux et qu'on puisse intervenir de manière citoyenne avec la perspective la plus éclairée, oui, possible.
Voilà. D'où, c'est ça, quand je mentionne la nuance entre l'investissement et la dépense, c'est parce que cet investissement-là, c'est ça. Il y a des répercussions sociales, il y a des répercussions sur quels citoyens ou quelle place on donne aux citoyens. Si les citoyens ont la chance de s'outiller, de s'informer davantage, bien, ils vont faire des citoyens qui vont voter en ayant compris les enjeux un peu mieux, ils vont pouvoir prendre des décisions, s'impliquer dans leur milieu aussi, participer, trouver un rôle dans cette société, au-delà de simplement l'intégration, bien sûr, importante au marché du travail ou le maintien des habiletés qu'on doit acquérir, surtout dans un univers où tout va très vite. Vous le mentionniez, il y a tout l'aspect de la technologie qui peut très bien isoler à la fois les gens qui sont sur le marché du travail ou les chômeurs ou les décrocheurs, mais très bien aussi isoler les retraités qui peuvent avoir un peu raté le train et qui ont à ce moment-là pas la possibilité de garder ce lien-là si important.
C'est sûr. Et quand on parle d'investissement social, c'est pas sûr que ça se mesure de manière aussi facile que l'investissement économique, alors qu'on sait bien que beaucoup d'investissements économiques sont très difficiles à évaluer ou à, oui, mesurer. Et donc, à ce niveau-là, vous avez parfaitement raison de dire que c'est dans l'implication sociale des citoyens que on espère que ces investissements éducatifs vont se traduire.
En effet. Et dans toutes ces mesures d'austérité ou de contexte d'austérité ou de réflexion sur les dépenses, on avait sorti en début d'émission avec Emmanuel Béguineau la sortie qu'a faite Mme Françoise Bertrand, présidente directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec, avec ce qu'elle appelle l'échec de la loi du 1%, qui était une sortie, ou en tout cas, moi je l'ai reçue, comme je le mentionnais en début d'émission, un peu comme un pavé dans la mare, ou au moins une matière à réflexion en se disant, bien, c'est quand même une prise de position assez étonnante. Bien, enfin, vous me mentionnez. Peut-être pas étonnante.
Peut-être pas étonnante, ouais, là, mais sans vouloir rentrer là, dans une controverse avec Mme Bertrand. Là, mais il reste qu'effectivement, c'est révélateur. de l'importance, quand on parle de qualité, là, de l'importance de l'évaluation et l'importance d'arguments fondés, très clairement fondés, pour avant d'arriver à une prise de position. On peut pas déclarer qu'une loi ou qu'une mesure est un échec parce que on dit que le Québec reste toujours en queue de peloton, là. D'abord, c'est loin d'être sûr que le Québec est en queue de peloton au niveau de l'éducation des adultes au Canada. Donc, c'est une première chose. Mm-hmm. D'autre part, il faut, au-delà de cette information, il faut aller voir ce que cache cette information en termes, si on parle de milieu de travail, en termes de composition sectorielle de l'économie québécoise, en termes de taille des entreprises, en termes de qualité de la main d'œuvre, et donc avant de sonner le glas d'une mesure, il convient au minimum d'aller voir tous les facteurs qui peuvent intervenir et l'expliquer.
En effet, vous le mentionniez, on pourra se pencher là-dessus un peu plus longuement dans le cadre d'un reportage en 2015, dans le contexte de cette émission, qu'il y a eu, ça a déjà été un peu différent, la façon de faire les évaluations ou de se pencher sur les évaluations.
À une certaine époque, la première loi qui, dans le fond, balisait cet investissement que les entreprises doivent faire avait une clause d'évaluation tous les 5 ans.
Oui.
Donc là, il faut au minimum retourner à ce que les évaluations de l'époque disaient, avaient conclu avant de donner un jugement aussi lourd et aussi fort que celui d'un échec.
Oui. Bien, en fait, je l'ai lu comme un désaveu, puis je me suis dit, bien, c'est dommage si c'est la position que cette chambre de commerce-là prend, ou l'ensemble des chambres de commerce, la fédération, parce que c'est ça, c'est assez lourd et assez difficile de renverser la vapeur, il me semble, si c'est déjà leur perception de tout ça. Mais bon, alors comme je le mentionnais, on aura la chance de s'y pencher davantage pour réfléchir à une espèce de bilan 20 ans après.
On est déjà dans une démarche où justement on veut documenter un peu plus la situation avant d'avoir un jugement aussi, aussi lourd.
Oui, exactement. Et c'est apprécié de pouvoir au moins soulever la chose. Je voulais, en terminant cette entrevue, au moins vous permettre d'aborder le volet international de votre rôle et du rôle de l'ICEA, parce que c'est intéressant de voir que ça vous permet de vous pencher sur ce qui est fait ailleurs, avec une coalition assez large. Je vous laisse conclure avec ça.
Malgré le climat d'austérité, qui est un défi absolument superbe actuellement, c'est le fait que l'ICEA va accueillir l'Assemblée mondiale de l'Institut international de l'éducation des adultes. Et donc, ça va être l'occasion pour tous les militants et tous les formateurs et tous les intervenants en éducation des adultes de rencontrer des collègues de d'autres pays, d'examiner ce qui se fait dans d'autres pays. Et donc, ça va être un moment de ressourcement et un moment d'ouverture de ce qu'on fait de façon très importante et très intense. Et donc, le rendez-vous au mois de juin prochain est vraiment un rendez-vous qui est très emballant pour nous, parce que on va pouvoir s'ouvrir et améliorer et étendre nos relations avec les autres provinces, les autres pays.
Parfait. Merci beaucoup, M. Doré, d'avoir pu nous présenter c'est très important, ce point de vue.